Bonjour, bonjour, nous
Bah,
sommes en
plaisir.
direct de quart de tour pour la combienième session de Poche sous les yeux en direct, Odile, toi qui es notre gardienne du temple.
La troisième édition, je
La
crois.
troisième?
Oui,
Tu
déjà.
m'as déjà dit ça la dernière fois, je crois. Mais bon, les
Non,
auditeurs
non.
reconteront,
Non,
c'est pour la
non, je
mettre en forme
confirme.
tout de suite. Le principe
Non.
de des Poche sous les yeux en public et en direct, parce que je rappelle que c'est en public sur la Gloriette et que... Si vous voulez voir les chroniqueurs de Des Poches sous les yeux, c'est le moment ou jamais. Le principe, c'est que les chroniqueurs chroniquent cette fois-ci ce qu'ils veulent et pas ce que Odile décide qu'on chronique.
Ça change.
C'est-à-dire Des Poches sous les yeux, mais quelquefois autre chose que des poches. D'ailleurs, hein. Je pense que certains se sont permis de chroniquer autre chose que des
Oui, des
poches.
fois des éditions de minuit,
Ouais, c'est
là.
scandaleux. Bon, bref. Et donc les chroniqueurs vont vous parler des livres qu'ils ont aimés. Et comme au quart de tour cette année, c'est va y avoir du sport. Eh ben, les intellos de Des Poches sous les yeux se sont intéressés au sport. Et on va mesurer leur intérêt au sport avec avec les bouquins qu'ils ont choisis. Autour de la table, il va y avoir Odile, Mélanie, Daniel, Jimmy, Laurent, et puis aussi Michel, qui est le gagnant du prix Rockatitude de cette année, gagnant prix du prix Rockatitude que vous pouvez lire dans les tirés à part, mais qui viendra nous expliquer comment il a pu écrire cette nouvelle. Il a peut-être écrit un bouquin déjà, d'ailleurs, c'était un scoop, sur le sport. Ça s'appelle Sport de combat. Alors, on commence tout de suite avec Odile. J'étais obligé, c'est par contrat, je dois commencer les émissions avec Odile. Et Odile, tu as choisi un bouquin qui s'appelle Petite sœur, mon amour, et qui, paraît-il, parle de sport.
Tout à fait, c'est le 37e roman de Joyce Carol Oates, un auteur américain que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une formidable conteuse. Et ici, elle nous raconte une histoire qui est basée sur un fait divers qui a défrayé la chronique aux États-Unis dans les années 90, où il s'agissait de la mort d'une mini-miss, vous savez, ces petites filles qu'on transforme en Barbie et qui avaient été retrouvées assassinées. Donc là, l'idée, c'était de transposer ce fait divers dans le monde du patinage artistique.
Donc en vrai, elle n'était pas patineuse
Et
artistique.
non, c'était une mini-miss, simplement. Et là, le fait de transposer ça dans le monde du sport apporte beaucoup plus de thèmes à aborder. C'est beaucoup plus intéressant. Donc en fait, Petite sœur, mon amour, c'est l'histoire d'une petite fille qui donc est retrouvée assassinée, ligotée et battue à mort dans la chaufferie de sa maison. Et comme elle était déjà très connue et médiatisée, tous les médias s'emparent de l'affaire et vont soupçonner tous les membres de la famille en disant que c'est eux les meurtriers. Donc la mère qui était névrotique, le papa un homme d'affaires volage, et aussi le petit frère qui aurait pu prendre ombrage de la notoriété de sa sœur. Donc tout le roman est raconté par le frère. Donc le frère qui était complètement détruit par cette histoire de meurtre, qui vit dans une école pour enfants inadaptés, école dans laquelle on retrouve tous les enfants de stars ou les enfants des victimes de faits divers affreux. Et donc il est vraiment disloqué et la narration est elle aussi disloquée. Donc il y a carrément un parallélisme entre le personnage névrotique qui raconte cette histoire et la narration. Donc on a plein de reproductions de lettres, par exemple, des reproductions du petit journal que tenait ce garçon qui s'appelle Skyler. Il le tenait à l'âge de 9 ans, l'âge auquel a eu lieu l'assassinat. Et en même temps, il y a son commentaire personnel à l'âge de 19 ans, 10 ans après les faits. Qui essaie de raconter cette histoire parce que ce qui est assez passionnant, c'est que dû à ce traumatisme, il a une amnésie. Donc lui-même ne sait pas si il a commis ce crime dont on l'accuse ou dont on l'a soupçonné. Ce qui fait que sa narration oscille toujours entre la peine d'avoir perdu sa petite sœur et puis un énorme sentiment de culpabilité, puisqu'il peut être l'auteur de ce crime affreux.
Mais Joyce Carol Oates finalement décide de qui a assassiné cette petite fille.
Et alors là, ce qui est formidable dans ce livre de 737 pages et qui rend vraiment, c'est un livre obsédant. On est très très mal parce que on soupçonne tout le monde. Et alors, ce qui est bien, c'est que au bout des 737 pages, Joyce Carol Oates, elle, a décidé de donner le nom du coupable, qu'on n'a jamais trouvé en fait dans la réalité. Mais bon, alors il y a quand même un rapport avec le sport.
Ouais, alors j'allais demander, le patinage artistique, on en parle vraiment dans ce bouquin ?
On en parle pendant plus de 400 pages.
Non.
Si, c'est énorme parce
que. T'as appris quoi alors ?
Eh ben, j'ai appris que faire du sport, mais c'est terrible parce que ça te bousille une enfance. Et donc, pendant au moins plus de 435 pages, on a la montée des marches vers la gloire de cette petite Blisse de 5 ans, donc qui doit faire des entraînements incessants, qui est coachée à mort.
Ce qui est terrible, c'est ses parents surtout.
Mais, et puis les coachs aussi, parce que donc au niveau physique, elle peut pas tenir, donc elle est obligée d'être dopée. Donc dopée pour améliorer ses performances, dopée pour booster sa croissance, dopée pour oublier les douleurs de l'entraînement. Et donc on s'aperçoit que dans ce monde sportif, elle est carrément vampirisée, elle n'a plus de personnalité, elle n'est plus rien, elle n'est plus qu'un objet de succès, d'ascension sociale pour ses parents. Et voilà.
Et voilà, et donc Joyce Carol Oates, je le dis mal, donc redis-le.
Oui. Joyce Carol Oates, donc elle a vraiment très bien parlé
de
ce milieu sportif. Non, mais je voulais rajouter un truc encore.
Si je veux, ouais, vas-y.
Parce que donc il y a le monde sportif qui est lié aussi au monde de la publicité, parce que tous les grands sportifs maintenant deviennent des objets de marketing, donc ils font des publicités et ils sont obligés d'être beaux, ils sont obligés d'aller voir les orthodontistes pour avoir une belle image, ils sont obligés d'aller voir les esthéticiennes. Et là, en plus, donc cette petite fille, elle est obligée d'avoir des tenues affriolantes, sexy, alors qu'elle n'a pas 5 ans, donc il y a quelque chose de complètement démesuré. Et dans les efforts qu'elle est obligée de réaliser pour... dans les efforts
des répétitions aussi,
pour améliorer ses performances sportives et son apparence physique.
Et donc les enfants ne feront pas de sport.
J'aimerais bien qu'ils ne fassent pas de sport.
Merci, voilà. Merci Odile. Alors là, on va même pas en parler d'un vrai sportif et qui lui...
Alors c'est beaucoup moins glamour en fait.
Ouais, c'est moins glamour, il y avait moins de pub
sport,
à l'époque.
C'est ça. Alors,
autoportrait de l'auteur au coureur de fond.
Non, c'est pas ça.
Merde, courir de Echnos.
Mais je veux bien en parler aussi.
Mais
hein.
Là, il va en parler après.
Courir de Echnos.
Mais alors courir de Echnos.
Donc,
ça parle
courir de Jean Echnos, ça parle de courir. C'est incroyable, si le titre est éloquent, au moins on n'a pas de questions à se poser. Donc courir, c'est la biographie, alors on va nuancer un peu en voyant que c'est pas une vraie biographie au sens classique du terme, d'Émile Zatopek. Donc c'est une des trois biographies en fait qu'a écrite Jean Echnoz. La première était consacrée à Ravel, le pianiste, et la dernière à Nikola Tesla, qui était un scientifique assez fou. Et du coup, voilà, courir est consacré à Émile Zatopek et c'est la biographie centrale en fait dans le triptyque biographique de Jean Echnoz.
Et c'est qui Émile Zatopek ?
Tu ne sais pas qui est Émile Zatopek, franchement.
Je ne sais pas. Nous sommes là pour ça.
C'est un coureur tchèque. Alors je ne me souviens pas du tout de cette date. Il est mort en 2000.
Il est né en 1922.
C'est ça. Ah ouais. Merci. Tu sais tout donc. Donc qui est un des plus grands sportifs, même moi qui ne connais pas grand chose au sport quand même, je connaissais ce nom.
C'est vrai ?
Donc oui.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Je crois qu'il a couru.
Non, il a gagné des médailles d'or.
Alors, attends, aux Jeux Olympiques d'Helsinki, 5000 mètres, 10 000 mètres et le marathon, je crois.
C'était en 1952.
Voilà, c'est ça, je n'avais pas la date. Mais donc voilà, Jean Echnoz consacre un livre à ce sportif, mais c'est pas une biographie au sens classique. Et en fait, ça parle finalement pas tellement de sport. Je suis hors sujet dès le début. À savoir qu'il considère Zatopek comme presque un homme ordinaire en fait. Et il va décrire cet homme qui devient sportif par hasard en fait, parce qu'il travaillait à l'usine Bata. Il fabriquait des chaussures. Et donc c'était sous le régime communiste qui a imposé en fait aux ouvriers de participer à une course sportive. Donc un jour, et donc il s'est retrouvé inscrit de façon obligée et il a gagné la course. Et il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas continuer ? Et du coup, il a commencé à s'entraîner et à gagner tout, absolument partout. Voilà.
Mais le bouquin parle de ça ? Décrit ça ?
Oui.
D'accord.
Et il décrit de façon... Bon, je suis amoureuse de Jean Echnoz, en fait. Hein, donc, de toute façon, je ne vais pas dire le contraire. Donc, sa langue est absolument remarquable.
Elles sont toutes amoureuses de Jean Echnoz en même temps. Voilà.
Toutes, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, oui. Et en fait, même son écriture va imiter la foulée presque d'Émile Zatopek. Enfin, il y a une écriture absolument... mimétique en fait par rapport à la course. Et je ne me souviens plus de ta question.
Il y en avait une. Je demandais si que racontait le livre en fait.
Il raconte la vie, oui. Alors en fait c'est censé être une biographie, mais en fait il le transforme vraiment en personnage romanesque. Alors tous les éléments sont vrais, c'est-à-dire qu'il a fait des recherches absolument incroyables, mais voilà, on va pas avoir comme dans les biographies classiques la chronologie, la naissance, etc. Là c'est vraiment, il s'empare d'un vrai personnage et il en fait un personnage de fiction, mais qui est presque un homme ordinaire, en fait.
C'est un homme ordinaire, en fait, et il finit pas très bien, d'ailleurs.
Alors contre. Oui, parce qu'en fait, il y a une toile de fond aussi politique. Hein. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, on a l'impression presque qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Voilà, il gagne, il continue, il enchaîne. Et une sorte de Candide, en fait, dans le milieu sportif. Mais en toile de fond, il y a l'univers politique, en fait, puisque donc il est tchèque. Donc il subit d'abord l'invasion allemande, ensuite le régime communiste. Et il va prendre position en fait quand Dubček arrive au pouvoir, et il va dénoncer en fait le stalinisme, et ça va lui coûter cher puisqu'il se retrouve on va le forcer à être éboueur à Prague, mineur ensuite pendant des années. Donc il abandonne d'ailleurs sa carrière sportive à ce moment-là. Et donc il y a tout l'arrière-plan politique en fait qui est traité de façon remarquable également.
Merci Mélanie. Alors, c'est publié aux éditions de Minuit, oui. Et en poche quelque part ou pas du
tout ? Oui. Ouais. Aux éditions de Minuit, en poche. Là, c'est que c'est la vieille édition, mais depuis, il est paru en poche aussi. Donc, je ne triche pas complètement, en fait.
Très bien. Voilà. Merci. Le troisième, avant de parler avec Daniel du troisième, on va écouter le début de la chronique que Daniel a faite sur ce livre. Parce que c'est des poches sous les yeux, et on fait un peu de pub aussi pour les chroniques. Et comme moi, c'est ma chronique préférée de l'année dernière, et qu'elle n'a pas été nominée par Odile. Bon, on va écouter le début. C'est vexant, mais j'ai le droit d'avoir une chronique préférée, là. On l'écoute tout de suite.
Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton.
Faire une chronique littéraire à Radio Béton, c'est s'engager physiquement, faire corps avec son sujet. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler en courant d'un livre qui colle au thème d'Ocar 2012, pile poil dans la thématique. Il va y avoir du sport. Le titre, autoportrait de l'auteur en cours de fond de Haruki Murakami. L'auteur qui pète tous les scores depuis 3 mois en tête du box-office. Édité par 10-18, 221 pages. Pour le prix, on peut lire catégorie 6, ce serait mieux d'ailleurs de me mettre un vrai prix plutôt que de m'embrouiller tout le monde avec des codes. Comme ça, sans réfléchir, quand on dit courir, la première sensation qui vient à l'esprit, ce n'est pas le bien-être, la détente, mais plutôt le souffle court, la respiration hachée, des bourdonnements dans la tête, les articulations qui craquent, les jambes lourdes, les muscles endoloris. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce bouquin, le titre à rallonge comme un trombone à coulisses était quand même peu engageant. Le sujet, la course.
Alors,
à pied.
Tu courais vraiment quand tu as fait cette chronique?
Non. Non. Presque, si je courais, mais j'étais assis. Parce que sinon, je ne sais pas gérer la technique avec les micros.
Et tu cours vraiment ou pas?
Oui, je cours vraiment.
Donc ce Murakami, qui est super connu aujourd'hui parce qu'il a écrit un Q84, 2Q84, 3Q84, oui. Donc il vend. Ça, c'est un de ses premiers bouquins.
Celui-ci ?
Ouais.
Non, celui-ci c'est un peu un ovni. Il est paru il y a quelques années. Il a écrit en 2005. Donc tu vois, il a 6-7 ans. Ouais.
Et ça raconte sa vie ?
Ça raconte pas sa vie, ça raconte juste une expérience et l'histoire d'une métamorphose de l'auteur, de Murakami. Parce que c'est un personnage qui a commencé comme gérant d'une boîte de jazz. Il fumait 2 paquets de clopes par jour, il avait une vie nocturne, il avait quelques excès. De tout genre et
de poids
aussi, ouais. De poids, ouais. Oui, il raconte justement sa métamorphose physique et il a décidé d'abandonner tout ce qui a trait à cette vie nocturne et pour se consacrer à l'écriture. C'est un choix, alors ça a l'air assez simple quand on le lit, hein, de passer d'une vie à l'autre.
Quand il fait ça, il décide d'écrire, courir, et il se met aussi à courir, donc
il a abandonné en 99.
Ah oui, d'accord.
La boîte de jazz. Il a décidé de courir au moment où il s'est rendu compte que physiquement il avait quelques séquelles, il commençait à gonfler un petit peu et l'inactivité physique lui posait un problème.
Il dit ça en se marrant. Tu veux dire qu'on devrait tous faire ça peut-être, non?
Moi, j'étais assez convaincu, oui, jusqu'à la page 132. Pourquoi? de l'utilité du sport au quotidien. Parce qu'à partir de la page 132, il raconte des expériences qui pour moi sont complètement étranges et extrêmes. Des marathons, mais des courses de plus de 100 km. Ensuite des triathlons où il décrit par le menu toute la douleur qu'il peut éprouver sans aucun plaisir particulier. C'est vraiment peu attirant.
Donc c'est chiant comme bouquin.
Non, c'est pas chiant du tout. Non, j'ai bien aimé. Ça m'a bien plu. Hein.
Ah d'accord.
Ah oui. Non, mais toute la métamorphose, parce que c'est pas uniquement descriptif sur, sur, sur ses performances et sur la manière dont il peut courir. C'est émaillé de réflexions philosophiques sur le vieillissement, sur le sens de la course à pied. Parce que c'est un poncif que moi j'ai entendu souvent pour des gens qui se mettent au marathon.
Ça les change.
Voilà, ça les change, il se passe quelque chose dans leur...
Mais comme ils courent, ils ont le temps de penser à eux-mêmes.
Oui. Alors que lui, il est plus sur le vieillissement, sur une philosophie de vie aussi, parce qu'il a changé carrément de vie. Il n'a plus d'amis, je pense, à Rocky Miracle.
Ça donne vraiment envie de courir.
Ah oui.
Ouais.
Par un moment.
De plus avoir d'amis.
Jusqu'à la page 132.
Donc ça s'appelle
Autoportrait de l'auteur en coureur de fond.
Très bien, merci. Et on peut le retrouver, Murakami, dans l'excellente revue Feuilleton là, qui sort tous les mois et dans laquelle on reprend un de ses textes qui n'a rien à voir avec courir, mais qui est super bien fait aussi. Murakami, donc on va faire une petite pause musicale et aller faire un tour de la Gloriette en courant, en attendant nos nouveaux chroniqueurs qui vont nous rejoindre. Et on va écouter, je suis en train de chercher ce qu'on va écouter, on va écouter Zebda tout de suite, puisque Zebda est là ce soir et qui nous parle de courir aussi.
T'aimerais que la terre est un bord où tout tombe, une fin quelque part. Qu'on n'ait plus à compter sur l'agent secret Bond, ce raciste en costard. T'aimerais que l'hiver soit là et puis s'arrête, l'été n'est pas pour tous. Qu'on n'ait plus besoin de faire un brin de toilette, puisqu'il n'y a plus d'eau douce. T'aimerais que l'Afrique désormais à son tour écrive les droits de l'homme. T'aimerais si et puis t'aimerais ça, tout à la fois t'aimerais si et puis t'aimerais ça. Mais je peux bien te le dire, y'a pas de si, pas de pause, pas de répit, pas de temps. Est-ce qu'on est si peu de choses ou pas assez mécontent? Pas de rêve qui nous cause, pas de rêve ou pas longtemps, ou que l'être humain se pose, est-ce tant qu'à pas le temps.
T'aimerais que nos hommes en tiennent une vraie couche, plus de terre abîmée. Sous les pavés, la mer, les mots de Monsieur Bush, c'était de la fumée. T'aimerais, mais chaque jour qui passe est un jour, et pas un élastique. Le temps ou le tam-tam, c'était pas un tambour. Et l'argent, pas du fric. T'aimerais mes deux frères qu'on pas la même peau, sans qu'un innocent et l'autre porte le chapeau. T'aimerais si et puis t'aimerais ça, tout à la fois. T'aimerais si et puis t'aimerais ça, mais je peux bien que le dire.
Y'a pas de si, pas de pause, pas de répit, pas le temps. Est-ce qu'on est si peu de choses assez mécontent? Pas de rêve qui nous cause, pas de rêve ou pas longtemps, ou que l'être humain se pose, est-ce le temps qu'il n'y a pas le temps?
À quoi sert ce monde qui nous vend des poussettes quand il n'y a pas de vaccin? Qui nous envoie des sacs mais jamais la recette, la notice sans le dessin. J'aimerais leur dire que les jours de défaite sont des jours de ciel bleu. Pour l'instant sortons parapluie, c'est jour de fête. Petit Africain, il pleut.
Y'a pas de si, pas de pause, pas de répit, pas le temps. Est-ce qu'on est si peu de choses ou pas assez mécontent? Pas de rêve qui nous cause, pas de rêve ou pas longtemps, ou que l'être humain se pose, est-ce le temps qu'il n'y a pas le temps? Est-ce le temps qu'il n'y a pas le temps, qu'il n'y a pas le temps? Est-ce le temps qu'il n'y a pas le temps, qu'il n'y a pas le temps?
Retour à la Gloriette pour ce spécial Dépoche les yeux en direct d'au quart de tour avec les meilleurs chroniqueurs choisis par Odile, parce que pendant toute l'année on bosse et Odile à la fin dit ceux-là vont passer en direct, ceux-là ne passeront pas en direct, et Eh ben, c'est chouette.
N'importe quoi, fais-moi passer pour une méchante.
Et alors, et c'est sur ce deuxième patio, il y a encore Odile. Il y a même des prix, oui, mais ça, bon.
Oui, c'est privé, ça.
C'est privé, on ne dira pas. Et on va donc parler cette fois-ci avec Odile encore.
Désolée d'être là.
Et Jimmy. Et Odile, on va parler rugby avec toi.
Oui, avec le livre de Jean-Paul Dubois, « Tous les matins, je me lève », un de ses premiers livres. Celui-là date de 88, donc il avait fait la vie. Il est connu pour « Une vie française », une saga historique sur la France, très très bien. Il est aussi connu pour « Kennedy et moi », qui a été adapté au cinéma. Donc là, dans ce petit bouquin, c'est un des bouquins qui m'a vraiment beaucoup plu dans les années 90. Donc c'est l'histoire de Paul Ackerman, un petit bonhomme ordinaire, qui vit complètement en porte-à-faux avec sa famille parce que tous les soirs, il écrit. Donc, il vit en décalé. Et tous les jours, il essaie de prendre des bonnes résolutions, en particulier pouvoir accompagner ses enfants à l'école. Et manque de peau, à chaque fois qu'il se réveille, il est 12 heures. Donc, c'est raté.
Il est fatigué, il a écrit toute la nuit.
Voilà. Donc, en fait, le livre ne devrait pas s'appeler « Tous les matins, je me lève », mais « Tous les matins, je me lève trop tard ». Donc, parfois, il côtoie des membres de sa famille quand ceux-ci sont malades, mais autrement, il n'arrive pas. Il est vraiment toujours fatigué, toujours en train de dormir. Et puis, il a vraiment une vie d'une banalité incroyable. Donc, dans le livre, on voit il va chez son banquier, parce qu'il a des problèmes avec son banquier. Il va chez son éditeur, comme tout écrivain.
Comme tout le monde va chez son
éditeur. Mais comme tout écrivain qui se respecte. Et donc, le seul acte héroïque du livre, c'est à un moment, il sauve un chien de la noyade. Voilà, c'est le summum de l'activité dans ce bouquin. Et donc, il a besoin de quand même vivre et d'aventure. Et donc, l'aventure existe dans ses rêveries. Parce qu'il rêve éveillé ou dans son lit tout le temps. Et il a un rêve récurrent, c'est qu'il est capitaine d'une équipe de rugby.
Et donc, l'équipe de France, même.
De l'équipe de France. Et à chaque fois, il se bat contre les maudits Anglais. Et c'est vraiment le seul moment où il y a de l'action dans ses livres. Et il est toujours donc l'homme qui va sauver l'équipe d'une situation dangereuse. Et donc, dans ses rêveries, il y a vraiment de la castagne et des coups. Et puis, voilà. Et alors, il y a des images que j'adore. Par exemple, à un moment, il dit « J'ai attrapé le ballon comme si mes doigts étaient pleins de hameçons, heureux comme un poisson dans l'eau », qui est un autre titre des romans de Jean-Paul Dubois. Et donc il a des images comme ça qui font très littérature américaine et qui font aussi énormément penser à Jean. Et c'est pour ça que moi j'adore ce bouquin, parce que je peux pas le lire sans ne pas penser à Jean, c'est impossible, cette histoire d'écrivain qui fait des vires avec ses potes et puis qui a des images vraiment fulgurantes. Des images littéraires fulgurantes. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est pas un pastiche de Jean du tout, parce qu'il rajoute des choses complètement personnelles. Donc son héros n'est pas du tout accro à l'alcool et ne se biture pas comme dans Jean. Mais à chaque fois, lui, dès qu'il a besoin de réconfort ou d'un stimulant, c'est du lait. Et tous les jours, il boit du lait, tout le temps. Et d'ailleurs, sur la couverture du poche, là, on voit une bouteille de lait avec la capsule relevée, parce qu'on sent que l'attirance est énorme, quoi. Le lait, pour lui, c'est la boisson phare. Donc, bien sûr, c'est ce qui le différencie de Jean. Après, dans Jean, il y a des scènes de baise non-stop. Oui. Mais c'est vrai qu'il adore les petites anglaises. Mais les petites anglaises, ce sont des voitures, des cabriolets.
Je vais te retourner à Jean, alors, finalement. Non,
non, parce que c'est vraiment amusant de lire Jean-Paul Dubois avec Jean en perspective dans la tête.
Et qu'est-ce que tu as appris sur le rugby, alors? Parce que je te signale, c'est une émission sur la littérature et sport, quand même. Donc,
Eh bien, que pour tous ceux qui ont une petite vie ordinaire, apparemment, le rugby, ça permet d'avoir de l'action dans sa vie.
Et tu sais que Dubois avait un groupe de rock?
Pas du tout, mais tu vas me l'apprendre. Vas-y, raconte-moi.
Fameuse, multicolore, contorsionniste, élastique, rock band.
Formidable. Voilà. Et...
je te le dis, à 15 ans, bon, voilà.
Ah, t'as bien préparé ta émission, non, bravo.
Non, j'ai préparé des conneries. Merci. Donc, Jean-Paul Dubois, tous les matins, je me lève, au point.
Au point, exactement.
T'as autre chose à rajouter?
Non, c'est parfait.
Ah, merci. On passe au cyclisme, un vrai sport, avec un bouquin qui parle de cyclisme, 54-13, Jean-Bernard Pouy. Qu'on a reçu il y a très très longtemps pour les vieux de quart de tour. Jean-Bernard Pouy, il était président d'un prix qu'on remettait sur un roman, oui. Le roman rock. Et il est venu ici à sa grande époque, on va dire.
Voilà, moi j'ai choisi de chroniquer, enfin de pas de chroniquer, mais de parler d'un bouquin de Germain Dupuy, donc oui, 54-13, qui va combler tous les amoureux de la petite reine et les usagers de la pédale. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de pornographique ni d'érotique là-dedans, c'est que sur le vélo. Et donc en fait c'est l'histoire d'un mec qui fait une échappée. C'est son premier Tour de France. Il se retrouve dans une équipe de mercenaires qui a été montée par un industriel du textile, qui trouve que c'est un bon affichage publicitaire, le vélo. Donc il se retrouve dans cette équipe, montée de bric et de broc, avec un peu de tout dedans. Il y a des Français, il y a des Belges bien sûr, il y a Italiens. Il y a un Colombien, un Allemand et un Lituanien qui se connaissent pas les uns les autres, et c'est parti pour la grande aventure. Donc il décide de faire une échappée, d'avoir son étape à lui. Et donc il transgresse toutes les règles d'usage au milieu dans le milieu du vélo.
Il respecte pas les leaders.
Il respecte pas les leaders. En fait, il y a une espèce de petit accord tacite où quand on a la famille qui passe, qui est dans le coin, ou quand on passe dans son village natal, etc., on laisse passer devant le cycliste en question. Et donc il fait valoir que ses parents sont sur le bord de la route en train de l'attendre. Il part devant, il part. Il se casse. Et donc forcément au départ, personne n'y croit. Il roule tranquille, il roule cyclo, quoi, facteur. Et puis il tient la route. Mais enfin, il y a comme 120 bornes à faire. Donc faut tenir, il faut pas se faire rattraper par les autres parce qu'ils vont manger tout cru. Donc c'est parti. Et donc il y a une espèce de truc pour pas sentir la douleur. En fait, faut faire courir la tête pour pas sentir les jambes. C'est ça le truc.
C'est bien dit.
C'est pas de moi, c'est Jean-Bernard Puy. Mais il écrit bien ce genre de truc, Jean-Bernard Puy. Donc voilà, c'est toutes ces divagations, c'est des pensées erratiques sur un peu tout, le vélo, le dopage, la publicité, la télévision. La mécanique, les gloires passées, les inconnus, enfin tout ce qui peut faire le vélo au cœur de la mécanique, quoi.
Et tout le bouquin se passe sur le vélo. Hein.
Sur le vélo. En fait, c'est un grand monologue, hein, un grand monologue où dans sa tête il se passe plein de trucs. C'est un mec qui vient du Nord, qui a toujours fait ça, qui a un parcours un petit peu atypique parce que lui il a une licence d'histoire de l'art, ce qui est quand même pas fréquent dans le milieu du vélo. Et voilà. Et donc 54-13, pourquoi 54-13?
Ouais, vous allez te le demander.
Et voilà. Pourquoi 54-13?
Oui, dis-nous.
Qu'est-ce que c'est? Eh ben 54-13, c'est le développement qu'il utilise. C'est celui qui va bien pour lui.
C'est quoi un développement?
Alors développement, pour les néophytes du vélo, 54, ça représente le nombre de dents qu'il y a sur la couronne, donc le plateau à l'avant. Et 13, c'est le nombre de dents qu'il y a sur le pignon, qui est sur la roue arrière.
Ça se mange pas.
Non. Ça se mange pas. Non. Et en fait, un tour de pédale, ça fait 9,13 m. Voilà. Alors bon, faut savoir
c'est plus gros quand même, celui-là.
C'est quand même assez gros. Faut avoir des cuisses quand même pour pousser ça. Hein. Et alors, il dit qu'il y a quand même des brutos, hein, qui utilisent du 55-11 et 55-12. Mais là, c'est vraiment les grosses brutes, quoi. Hein, parce que là, si on se plante, alors je cite Jean-Bernard Puy, si on se plante, on se braque. On se plante, et là, on devient braque ou branque, au choix. Voilà.
Vous mettez dopé un tout petit peu quand même.
Alors il en parle. Alors justement, il y a une histoire où justement un de ses coéquipiers se fait choper au dopage et quand il apprend que celui qui va pisser dans le bocal, c'est lui, il devient tout pâle, il change de. Voilà, et il est brûlé, quoi. Parce que forcément, en plus dans l'équipe, il y en a deux qui se sont chopés au dopage. Donc pour eux, ça y est, ils sont marqués au fer rouge, c'est terminé leur carrière, c'est mort, quoi. Enfin bon, voilà, tout ça.
Merci. 54-13, oui, Odile avait une question.
Non, non, c'était pas une question, parce que pendant que tu parles, je suis sur le site de la Gloriette, et moi, j'en vois qu'ils sont dopés aussi. Je viens de voir voler un menhir.
Oui, il y a du lancer de menhir ce soir.
Du lancer de menhir, c'est quand même assez extraordinaire.
Voilà. Il y a du sport, ce record de tour.
Des Olympiades celtiques, peut-être.
Et alors, 54-13, c'est publié dans une collection qu'on aime bien.
Atalante. Alors, c'est sûrement sorti en poche, mais je l'ai pas trouvé. Alors aussi, il y a aussi un truc, c'est émaillé d'extrait du code de Wegmüller. Wegmüller qui était un coureur. Et donc ça arrive comme ça de temps en temps, au fur et à mesure de l'avancée du récit. Ça fait un petit peu comme le Haga Kouré dans Ghost Dog, tu vois. Le traité de...
Ah, bien sûr, oui.
Hein, vous voyez bien, j'en vois qui rigole là.
Saint-Patrick avait pas préparé, il a rien à dire.
Un traité de guerre japonais qui traitait des samouraïs, etc. Dans Ghost Dog, le film de Jarmusch, là, Forest Whitaker se réfère à ce bouquin-là. Et là, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Donc c'est son code moral, c'est... voilà.
Bon ben merci. Hein. Et,
je voulais dire un dernier truc. Le dernier, Patrick. Hein. Dernier truc, hein, tu m'en veux pas. Hein. Donc, c'est que dans la forme de l'écriture, c'est intéressant parce qu'en fait, il utilise le souffle de son rythme de pédale pour écrire son texte. Est-ce que c'est clair ce que je dis ?
En fait,
des fois, des toutes petites phrases qui sont en un mot, deux mots, parce qu'il est en train de monter une côte et ben voilà, quoi, il a besoin de respirer. Et puis dès qu'il y a une petite descente ou du plat, voilà, et, alors, il y a des phrases plus longues, etc. Donc même dans la forme, c'est bien réfléchi. Voilà,
merci,
Patrick.
Donc c'était 54-13, Jean-Bernard Pouy à la Talente.
Voilà.
Bravo. On va parler.
Je pense que je brime tout le monde avec mes 3 minutes et demie de chronique tout le monde l'année, hein, parce que là, il s'éclate sur plus longtemps.
Retour à la Gloriette.
Bonjour
Mélanie. Bonjour Odile. On va parler foot. Mélanie, depuis le Déo Débat de ce midi, est une spécialiste de foot.
Complètement. Hein, je sais tout sur le foot.
Voilà. Et donc on va parler de Dans la foule de Mauvigné.
Tout à fait. Qui est le local de l'étape. Regardez la métaphore sportive, puisqu'il est tourangeau.
Oui.
C'est pas sa seule qualité, hein. Il y en a plein d'autres, hein, notamment celle d'être un excellent écrivain. Et donc dans la foule, voilà, c'est le foot sous son côté un peu sombre, puisque c'est inspiré de la tragédie du Ezel, je ne sais plus. Dont tout le monde se souvient, qui a eu lieu le 29 mai 1985. Donc on était nombreux à être devant nos télé à regarder. Ah, moi j'y étais. Moi j'y étais.
C'était quoi ?
J'avais 11 ans. Comment c'était quoi ?
Qu'est-ce qui se passait ce jour-là ?
La finale de la Coupe d'Europe entre Liverpool et Juventus.
Wow.
De Turin. D'autres questions ?
Non.
Merci. Juventus 1, penalty de Platini.
De Platini.
C'est vachement dur à dire.
Et ouais, Platini, c'est dur à dire.
Voilà. Non, penalty de Platini.
Ah, penalty de
donc
Platini.
Quelques minutes avant la fin. Donc voilà, c'est la tragédie dont s'inspire Mauvigné pour écrire ce livre, même si paradoxalement, en fait, il ne décrit pas vraiment cette tragédie, mais la trajectoire de personnages qui se retrouvent tous dans ce stade ou à proximité du stade pendant la tragédie, donc qui viennent d'Italie, d'Angleterre, de France. Donc on suit dans un premier temps donc la trajectoire de ces personnages, et je ne sais plus.
Et en fait, ça parle pas foot.
Oui et non, en fait, puisqu'il s'inspire. Alors, Laurent Mauvigné aime s'inspirer des faits divers pour construire des univers romanesques. Et là, en fait, il s'inspire de cette tragédie pour écrire, en fait, quelque chose de très intime, puisqu'on voit tout du point de vue des personnages. Ce sont uniquement des monologues intérieurs, en fait, qui vont donc donner le point de vue des personnages sur ce qui se passe, les sensations. Donc, il y a un couple d'Italiens donc qui fête son voyage de noces, en fait. Et l'Italien, le mari va mourir en fait pendant la tragédie du Ezel, et les autres personnages vont se retrouver mêlés à cette histoire en fait et suivre la veuve du coup de ce personnage qui est décédé pendant la tragédie. Et mais après voilà, il y a aucune description du match de foot en lui-même. On ne sait même pas que le match va finalement avoir lieu après. Parce que ça a été une grosse polémique à l'époque en fait que le match ait quand même lieu après. Et ça par exemple, c'est pas du tout évoqué en fait dans le livre.
Parce qu'en fait, la tragédie du Ezel, c'est une baston de hooligans.
C'est ça qui venait d'Angleterre. Donc la fameuse tribune Z, d'accord, où ça a commencé à dégénérer. Et du coup, bon, la police belge n'était pas du tout préparée. Enfin, au niveau de la sécurité, c'est pareil. Après, il y a eu un procès, une grosse polémique sur les conditions de sécurité. Et du coup, ça a complètement dégénéré. Il y a eu un gros mouvement de panique. Et il y a eu 29 morts quand même et plus de 600 blessés. Voilà.
Très bien. Tu sais que Baudrillard a aussi écrit sur la tragédie de Zelle, oui.
Voilà, c'est ma question piège, Odile, tu vois. Tu sens moins seul, hein. Voilà.
Je m'adresse au prof, je prépare.
Donc là, je suis censée répondre oui, bien sûr, okay. Baudrillard, tout à fait.
Très bien.
Tu veux nous en dire quelques mots de Baudrillard, non? Ça a l'air de t'inspirer, donc.
Je sais même pas qui c'est, moi, tu sais.
C'est Google, c'est bien Google, quand même.
Ok. Alors, c'est encore aux éditions de Minuit?
Oui, mais là aussi, c'est paru en poche depuis. Là, moi, je l'avais acheté quand c'est sorti. Donc,
et ça s'appelle
Dans la foule de Laurent Mauvigné.
Merci.
De rien.
Merci, Mélanie. À bientôt. Jouez juste de Bégodeau.
Alors,
je dis Bégodeau parce que, bon, tout le monde n'aime pas Bégodeau.
Non, je sais. Mais moi, le personnage comme ça, je ne connais pas intimement Bégodeau. Mais quand on voit à la télé...
On le lit. Hein. Nous, on ne parle pas du personnage.
Je l'aime bien. Donc là, je me suis dit... Puisque le thème de cette émission est « Il va y avoir du sport », je vais lire le premier roman de François Bégodeau, « Jouer juste sur le foot ». Bon, sincèrement, j'ai un petit peu regretté. Hein, mais bon. Donc, il s'agit du... C'est un discours, c'est le discours d'un entraîneur de foot à son équipe lors d'une finale de Coupe d'Europe de foot, juste avant les prolongations. Alors, pourquoi est-ce que je dis discours ? Parce que c'est un long, long monologue. Et ce ne sont pas des conseils genre, allez, on y va, on va les niquer, on a la patate, etc. Non, non.
Toi, tu as déjà été dans les vestiaires de foot, on sent ça.
Donc là, il s'agit vraiment d'un discours parce que ce narrateur qui est entraîneur, donc l'entraîneur-narrateur, a toute une philosophie sur le jeu de foot, en fait. Donc, il va expliquer sa théorie du foot, parce que pour lui, le foot, c'est sacré, on ne peut pas le jouer n'importe comment. Donc, le foot se joue debout.
Oui, en même temps.
Non, parce que pour lui, ça veut dire que toute personne qui tacle n'est pas digne de jouer au foot, parce que si tu tacles, ben t'as qu'à être un pingouin sur la banquise. Hein. Enfin, c'est ce que
tacler, c'est quoi exactement ?
Eh ben, tu fais tomber ton adversaire.
D'accord.
Donc à ce moment-là, tu fais une glissade et tu n'es plus debout. Et là, c'est absolument insupportable pour lui, parce qu'il dit que pour jouer, écoutez bien, parce que moi j'ai jamais joué au foot et j'en ai rien à foutre, mais donc pour jouer correctement, il faut faire des passes en triangle, la fameuse passe triangulaire de Nantes, ça c'est très très important. Et à ce moment-là, si on fait tout ça, on peut être content de soi parce qu'on aura joué juste.
Il faut faire du beau jeu.
Voilà, du beau jeu, jouer juste. Et c'est le titre du roman. Et alors, là où vraiment l'idée est intéressante et là où je me suis dit, tiens, je vais lire ce roman, c'est que ça dure 102 pages. Pendant les 102 pages de ce discours, le narrateur, l'entraîneur, fait un lien entre la vie d'une équipe de 11 personnages et la vie de couple. Et en particulier, sa vie de couple ratée avec son ex-copine Julie. Et on comprend pourquoi sa vie de couple est ratée, parce qu'il est chiant, est chiant avec ses joueurs où il a des règles trop strictes, et dans sa vie de couple, il adapte exactement la même théorie. Donc ça donne...
Il est debout tout le temps.
Il est debout tout le temps, mais oui, mais c'est-à-dire qu'il faut pas se toucher, parce que... Donc, de même qu'il faut pas jouer instinctivement au foot, qu'il y a des règles, dans la vie de couple, pour lui, il faut pas se laisser aller au plaisir du toucher, de la chair. Donc, dans une soirée, il faut se regarder en face à face, mais surtout pas danser ensemble. Dans la rue, il faut pas se prendre par la main. Faut éviter de vivre ensemble, de coucher ensemble, parce qu'autrement, c'est trop facile. Donc, alors, en plus, il a des expressions incroyables, donc... Lui, il dit qu'il faut contrevenir à la sexualité ombilicale, ne plus être des animaux, c'est comme ça que je le traduis. Il faut savoir s'extirper de l'injuste épiderme. Donc ça, c'est vraiment arrêter de se toucher, j'imagine. Donc en fait, ce qui était amusant, c'est qu'il faut toujours tout traduire. Et ça devient presque drôle, en fait. Donc ce personnage, à mon avis, mérite... d'être vu, et d'ailleurs ce roman a été adapté en pièce de théâtre, et à mon avis, autant je me suis vraiment embêtée à lire ce livre, je pense qu'au théâtre ça doit être génial, parce que là on a toute la dimension de la farce, parce qu'entre le discours et la réalité il y a une énorme différence, et donc là ça peut être bien d'avoir un bon acteur qui est capable de traduire ce monologue.
Et c'était un de ses premiers bouquins, en plus
c'est le premier.
Il a quand même réussi après avoir écrit ce bouquin.
Oui, il doit avoir plein d'autres talents cachés.
Et tu sais qu'il s'intéresse vraiment au foot parce qu'il a...
Oui, c'est un grand fan de foot, il jouait à Nantes.
Il voulait même racheter à un moment le club de Nantes quand ça allait très mal à Nantes. Peut-être avec ses droits d'auteur, et Bégodeau a plein d'argent. Merci pour ce passage sur le foot. Suite et fin de Des Poches Sous les Yeux en direct de Quart de Tour sur la Gloriette avec trois nouveaux chroniqueurs. Deux chroniqueurs et puis un futur chroniqueur, il ne sait pas encore, mais il va se faire embaucher à la fin de l'émission. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors on va parler de tous les sports cette fois-ci.
Quasiment, au moins un par pays.
En l'absence de classement final de Tristian Garcia. C'est quoi, c'est un recueil de nouvelles ?
C'est un recueil de 30 nouvelles. Chaque nouvelle évoque un sport et un personnage à chaque fois dans un pays différent du monde. Une sorte de cartographie comme ça. Et qui vise au final non pas à parler du sport dans toute sa splendeur, mais bien au contraire de ce que peut représenter, puisque le sport est, paraît-il, le miroir de la société, de ce qu'est le sport contemporain dans un monde qui devient de plus en plus libéral.
L'auteur, c'est un philosophe.
C'est un philosophe, il a 30 ans, et qui dit lui-même qu'il sépare assez bien ce travail de philosophe et d'écrivain, mais enfin, on reconnaît quand même là une pensée qui va au-delà de la simple fiction littéraire.
Et là, il parle de de tous les sports, y compris des sports un peu bizarres, zarbi ou qui n'existent pas même.
Oui, enfin, comme la lutte ouzbek, enfin des voilà, des sombres. Il part du principe que du coup chaque sport à la base est ancré dans une terre, dans un folklore, une culture, mais que dès qu'il devient médiatique, il tend presque fatalement vers une forme de mondialisation. Et c'est un peu ce qu'il essaye de montrer à travers toutes ces nouvelles, c'est-à-dire des personnages qui sont absolument tous des anti-héros. Et alors ça, j'avoue que j'ai trouvé ça assez intéressant, quand même des formes de losers assez exacerbées. Et à travers les histoires rocambolesques, souvent très drôles d'ailleurs, de ces personnages, une critique assez acerbe de ce qui est en train de devenir le monde aujourd'hui.
Parce qu'en fait, on s'intéresse toujours aux sportifs de haut niveau quand on les voit à la téloche et qui remportent des grands exploits, des grands records, mais ouais. Le sportif de haut niveau peut rater sa vie.
Peut rater sa vie, et même au-delà de ça, aujourd'hui, il s'avère que finalement, peu importe la victoire ou la défaite, puisque les sportifs construisent leur identité, si on peut encore appeler ça comme ça, à travers des considérations plutôt économiques que véritablement sportives.
Et quand il s'intéresse aux sportifs, il s'intéresse dans la lutte par exemple, il s'intéresse à ce que fait le lutteur, il va décrire ce que fait le lutteur, il va décrire ce que fait le footballeur, comment il aborde le sujet ?
Absolument pas, alors les points de vue sont souvent différents, il se met pas forcément dans la peau du sportif, il peut être aussi une femme de rugbyman, enfin, etc. C'est vraiment tout ce qui gravite autour de l'idée du sport, et on se rend compte que finalement, pour le sportif moderne, peu importe finalement qu'il soit vainqueur ou perdant, il sera vainqueur s'il arrive à réussir une vie médiatique à travers ça.
Peu importe le sport même ?
Peu importe le sport. Peu importe le sport.
C'est-à-dire que les enfants d'Odile peuvent faire n'importe quel sport du moment que ça marche, on s'en fout.
L'important, c'est qu'ils puissent avoir une vitrine médiatique, oui, tout à fait. Ouais. Il y a une nouvelle sur une gymnaste roumaine qui finalement ne fait jamais de compétition. C'est une pute, tout simplement. C'est une pute, mais au sens propre du terme.
Au sens propre.
Au sens propre, oui.
Et il y a aussi un pongiste chinois qui est... qu'on sacrifie dans la diplomatie, par exemple.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire son histoire. Alors lui, du coup, tout ce qui se réfère à son identité propre, et notamment la figure du père, fait que, alors déjà, il n'a jamais quasiment vécu en Chine. Tous ses contacts, il vit à Bruxelles, et c'est là où il s'entraîne. Il est censé jouer en compétition pour la Belgique. Et au dernier moment, on l'empêche de jouer parce que l'équipe chinoise, en fait, stipule que si ce personnage est dans la compétition, ils ne se déplaceront pas. Et pour des raisons médiatiques, il est préférable que l'équipe chinoise soit sur place.
Merci. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ce bouquin qu'on n'aurait pas dit.
Ça paraît un peu sombre comme ça, mais c'est vraiment souvent extrêmement drôle, très cynique. C'est même sa qualité première, et puis vraiment nous présenter le sportif comme un personnage aujourd'hui, en tout cas, qui flotte comme ça à travers le monde en assumant complètement son état de pure marchandise, et c'est ce qui se dessine un peu quand même dans l'œuvre, même si elle est encore petite, de Tristan Garcia aujourd'hui. Ouais.
Merci Laurent. On va parler, après avoir parlé de tous les sports, on va parler d'olympisme. Pas vraiment, donc. Ok, ça commence mal alors. Bon, c'est W ou le souvenir d'enfance de Perec, c'est parce que tu l'as pas lu jusqu'à la fin. Il marche le micro de Cathy ou pas ?
Ouais.
Vas-y. C'est bon.
Très bien.
Ouais. Alors non, effectivement, je ne l'ai pas lu jusqu'à la fin. Et la dernière fois, j'avais carrément pas lu le bouquin.
Ouais, bah ok. Hey, tu t'améliores, t'es en pleine phase d'amélioration.
M'améliore, là, je... Si je l'avais lu, mais enfin plusieurs années auparavant. Donc oui, il est quand même question de l'olympisme et de l'idée du sport.
Parce que je l'ai pas lu non plus, mais.
Voilà, c'est marqué sur la couverture. Quatrième de couverture.
Exactement.
Et je suis quand même arrivée à la moitié du bouquin où il est question un petit peu de l'olympisme sur l'île de W, paumée je ne sais pas où. Donc c'est pas trop vraiment de ça que je vais vous parler, mais plutôt quand même d'un combat finalement que Pérec mène au cours de ce livre et qui est un combat pour retrouver ses souvenirs et sa vie de famille en fait qu'il a pas connue. C'est en fait une autobiographie, donc il part à la recherche de ses origines, de son père, de sa mère, donc d'un père mort pendant l'invasion de la France par les troupes de Hitler et puis d'une mère disparue ensuite plus tard dans les camps. Alors l'intérêt, c'est que pour partir à la recherche de son histoire, il ne voit pas d'autre solution que de se tourner vers ses souvenirs. Très vite quand même, d'énormes problèmes se posent, il se rend compte que ses souvenirs ne sont pas fiables. En se penchant plus précisément sur ses souvenirs, mais il se rend compte que la plupart sont soit des fantasmes, soit des choses que sa tante, par exemple, avec qui il est très proche, des choses que sa tante lui a racontées et qui donc lui apparaissent comme des souvenirs, mais qui sont toujours pas fiables en fait. Donc voilà, il essaie de mettre en image en fait des choses qui finalement n'ont aucun fondement. Alors il va à ce moment-là utiliser, parce qu'il combat quand même, hein, pour utiliser le mot combattre, plusieurs moyens, notamment il se penche sur des photographies pour continuer sa quête. Et sont peu nombreuses ces photographies, donc il fait des descriptions très très détaillées pour presque fixer à travers les mots les images que représentent ces photographies. On a par exemple l'image d'une mère avec son enfant. Il sait que c'est sa mère. On m'entend pas en fait. Si. Ok. Il sait que c'est sa mère. Il sait que lui est l'enfant. Hein. Mais l'image à elle seule ne peut pas suffire à rendre vrai cette filiation qu'il a eue avec sa mère. Donc en fait, il agit un peu avec les mots comme si les mots pouvaient par magie faire surgir une vérité d'une photo. Alors il y a des comme j'ai pas lu le bouquin en entier,
tu vas quand même nous en lire un extrait.
Je vais vous en lire un extrait.
Moi, tu vas pouvoir lire en direct à la radio, c'est déjà ça.
Non, mais c'est pour montrer en fait la description. Donc deux photos. La première a été faite par Photoföder, 47 boulevard de Belleville, Paris 11e. Je pense qu'elle date de 1938. Elle nous montre, ma mère et moi, en gros plan. La mère et l'enfant donnent l'image d'un bonheur que les ombres du photographe exaltent. Je suis dans les bras de ma mère, nos tempes se touchent. Ok, mais en fait, il voit ça.
Elle ne lit plus, hein, Cathy. Là.
Ah, non.
C'est juste pour les gens comprennent, c'est pas Pérec qui a dit ok.
Bah, il aurait pu, hein.
Ouais, il
aurait pas dit ok, Pérec, hein. Je suis pas arrivé au bout, donc encore une fois, bref. Donc ces supports photographiques ne parviennent pas à reconstituer son histoire. Il cherche des traces, des dates notamment notées sur les photos. Il se rend compte à un moment donné que quelques années auparavant, bah en fait il a coupé la photo, il a enlevé la date. Donc même là-dessus en fait c'est absolument pas fiable et en plus on ressent une immense culpabilité. Et ça c'est aussi un combat qu'il livre finalement pour moi. Hein, c'est mon interprétation de voilà, j'essaye de me souvenir, je ne parviens pas à me souvenir, je vais chercher des photos, j'essaie de décrire ces photos et même en décrivant ces photos il n'en reste pas grand chose et quand je vais essayer de chercher encore de plus de détails, je ne les trouve pas et à travers une
je vais bientôt te couper, tu sais. Elle n'a pas lu, heureusement. Si elle l'avait lu, je pense que ce serait entre nous.
Et tout ça à travers une écriture très neutre en fait, donc avec un détachement total quoi. Donc vas-y, coupe-moi.
Merci. Non mais merci.
Ah,
merci.
Ça y est, je m'arrête là.
Bah non. Si.
Putain.
Et on fera pas. Bah, je voulais faire un enchaînement entre Lille, Lille que décrit Perec dans W et Sport de combat.
Bah si, parce que alors, moi, j'y arrive juste rapidement. En fait, je suis arrivée à ça. Voilà, à Lille, voilà, W.
Ok. Voilà. On va se faire une pause musicale et on va consacrer notre dernier plateau, parce qu'on est comme ça dans des poches, on a des plateaux à Sport de combat. La nouvelle qui a gagné le prix Rock Attitude. On reçoit Michel. Bonjour Michel. Le grand gagnant, le grand gagnant du prix Rock Attitude 2012. Prix Rock Attitude, donc, qui avait comme sujet.
Il va y avoir du sport, bien sûr.
Ah,
oui.
Un truc. Et donc, on a reçu des dizaines et des dizaines de nouvelles.
Tout à fait. Oui.
On s'est réunis.
On a choisi. et dès le départ, ouais. Il y avait une nouvelle qui surpassait toutes les autres. Et donc, à l'unanimité, sans aucune hésitation, on a
et
choisi.
Et là, on n'est pas à la téloche. Moi, j'y étais.
Ah non,
j'y
non, mais c'est vrai.
Et c'était vraiment ça. C'était assez terrible. Parce que nous, on aime bien passer des soirées à débattre et à s'engueuler.
Oui,
sur,
généralement, on s'engueule. Mais là,
ça fait tout l'intérêt du truc, quand même.
Mais là, on n'a même pas pu. Tu vois, on t'en veut
pas. On s'est engueulé sur la deuxième, en fait. Donc... Tu l'as écrit spécialement pour le prix?
Oui,
ou tu
mais
l'avais déjà...
Non, je l'ai écrit pour le prix, mais l'idée je l'avais déjà et ça tombait bien quoi. Et je l'avais depuis que j'étais petit parce que mon père avait cette idée de règlement des conflits qui devenait un spectacle et il me répétait ça tout le temps. Dès qu'on parlait d'une guerre, c'était son truc. Il fallait mettre les militaires pros sur un terrain, style terrain de foot amélioré, et qui se foutent bien sur la gueule devant un public, et c'était leur boulot, et que comme ça les populations civiles seraient.
T'appelles ça la guerre nouvelle, c'est le sport ultime.
Ouais, c'est ce qui est décidé pour éviter de se prendre une quatrième guerre mondiale, puisque là, à l'époque, il y en a déjà eu une troisième. Donc, ils ont trouvé ce système-là. Et puis, c'est un système qui permet aussi de générer beaucoup d'argent, parce que en sponsoring...
Oui, parce que finalement, c'est une guerre nouvelle, c'est une guerre. Mais il y a tout le système qu'on a décrit là pendant l'émission de sponsors, de médias.
Il y a les marques sur les camions, il y a...
sur les tanks.
Il y a les contrats de télévision.
De télé, oui.
Voilà, il y a les marques de chaussures. Par contre,
ce ne sont que des militaires qui se battent et qui se tuent vraiment, parce que c'est pas juste pour se marrer. Quoi.
Ah oui, là, c'est le vrai sport intéressant, parce que là, on va au bout, quoi, avec la vie humaine. Donc c'est
la télé-réalité pour de vrai, quoi.
Oui, voilà.
Et alors, donc tu dis cette idée, tu l'as eue depuis longtemps, mais tu écris depuis longtemps?
Pas depuis très très longtemps, non. Non, je m'y suis mis. Enfin, mon boulot, c'est d'écrire, mais à la commande, donc ça, c'est autre chose. Mais pour moi, écrire pour moi, ça fait pas très très longtemps que je m'y suis mis, en fait.
Et tu as envoyé d'autres manuscrits à d'autres gens que béton?
Non.
On n'est pas éditeur de...
Non, de toute façon.
Non, c'est jamais, non, ça non, on pourrait le rajouter.
Non, mais là je finis un roman qui se passe à peu près à la même période, mais dans une maison de retraite, donc ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est toujours la même période. Et puis je vais commencer celui-ci à partir de la nouvelle, développer un peu le truc, parce que j'ai l'idée de... Parce qu'il pourrait arriver.
Parce qu'en dehors de l'idée qui nous a bien plu, parce que forcément elle était pile poil dans le sujet et elle était extrême comme on aime, l'écriture est maîtrisée à un point étonnant. Hein. Odile,
regarde. C'est comme le sport, hein, c'est faut bosser. Quoi.
Faut bosser.
C'est une discipline. Alors, faut s'y mettre à des heures précises. Pendant que les autres s'amusent, il faut s'emmerder tout seul. Donc il y a quand même des similitudes avec le monde du sport, on va dire.
Donc t'as pas pondu ça un matin en te levant parce que tu as du talent.
Non.
Non. Tu as bossé.
Oui.
Et ça prend combien de temps pour faire une nouvelle comme ça?
Je sais pas, 2-3 jours.
Ah, c'est tout?
Ouais.
2-3 jours pour prendre ça?
Et c'est ça que t'appelles bosser?
D'accord. Ouais. Quel feignasse. Ah ouais, en 2-3 jours tu as fait ça.
Bon, on va reprendre le prix, hein, 3 jours de travail, c'est pas assez.
On va peut-être le faire signer rapidement un contrat. Et qu'est-ce que tu lis d'habitude?
C'est très variable. Je lis beaucoup, mais j'ai pas de... Ça va de Gian à Dar pour les Français. Sinon, je sais pas. Je viens de finir Clostria, par exemple, de Geoffrey. Et puis je lis notre Patrick Gauloise parce que ça m'est tombé sous la main et que c'était le livre de chevet de mon grand-père. Je lis un peu tout et n'importe quoi, quoi. En allant au bout tout le temps, donc c'est
contrairement
bizarre.
À d'autres. Non. Lui, il va jusqu'au bout.
Voilà. Il y a rien qui me tombe des mains, on dirait quoi. C'est infernal.
Et tu serais prêt à faire des chroniques alors?
Je sais pas. Non, je crois pas que je sois capable de parler d'un livre. Non, soit c'est pas mon truc quoi. Ça, non, là.
Bon, on m'a raté.
Tant pis, mais je te fais confiance, Odile, tu vas pouvoir continuer à travailler. Merci Michel.
Alors, c'est moi qui vous remercie.
Pour lire cette chronique, il y a le
tiré à part.
Il y a le tiré à part dans lequel on peut lire la chronique. Et puis il y a aussi un CD.
Un CD qui était édité par Radio Béton.
Dans lequel on lit la chronique et on l'a en texte. Et on peut l'acheter où? On n'est pas dans la merde. Bon, ok.
On se la refile sous le manteau.
On se la refile sous le manteau ?
Oui.
Okay.
Moi j'en ai 50, si vous voulez.
Donc Michel ouvre
un stand. Je ne sais pas combien vous le vendez, mais je fais 20% de moins.
Voilà. Il est gratos, il est bravo. C'est bien Michel, mais un vrai businessman. Bon.
Et donc, pour pouvoir contacter Michel, vous faites des poches sous les yeux.fr. Et on donnera les coordonnées de Michel.
C'était la fin de l'émission. Donc à la fin de l'émission, on va rappeler que toutes les chroniques, que d'abord on peut entendre des chroniques des poches sous les yeux tous les jours.
Trois fois par jour sur Radio Béton à 8h-5, 1h-5 et 18h-5. Enfin, si. Et Violette ça fait rire la programmatrice, parce que de temps en temps, elle les oublie, c'est vrai. Mais elle n'est pas tout le temps responsable. Ensuite, on peut retrouver les chroniques sur le site de Radio Béton et sur le site despochessouslesyeux.fr, où là, c'est un petit peu plus facile de s'y retrouver avec les auteurs, les titres des bouquins.
On retrouve les 300 chroniques qui sont déjà passées sur Béton.
Oui, facile. Elles y sont toutes.
Merci Michel, merci Odile, merci à tous les chroniqueurs des poches de passer par là. Merci à Violette pour cette technique parfaite.